Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 85. Un chauffard, un bébé et un assassin. Ah, chers amis, bonjour. Non mais, yo, hop là, aujourd'hui, on va un peu rire et surtout pleurer. Trois histoires dignes d'un scénariste de cinéma, avec d'abord la désespérante histoire d'un chauffard. Il est bourré, il écrase une jeune cycliste et il pense qu'en croyant en Dieu, on pourrait la ressusciter. Puis un drôle de jeune homme, il est papa, sa copine l'a largué, il a le bébé dans une poussette avec les courses de la supérette et tout se renverse sur le trottoir. Et je crois qu'il pleut en plus. Alors, vous allez voir, vous entendrez, c'est très drôle. Et enfin, on va voir passer le roi Louis XV à Klingenthal pour une histoire de sabre assez confuse, des armes qui n'ont pas été livrées à Waterloo, pas celui de Abba, mais de Waterloo, mais de Napoléon. Et le gars, qui s'appelle Antoine, va prendre 20 ans pour avoir trucidé sa femme que pourtant il aimait. Alors notre émission, vous l'avez bien connue sur Radio Judaïca Strasbourg, est une émission où tout ce que l'on invente est vrai, et ce ne sont pas des reportages ni des séquences historiques, ce sont juste des histoires, de la littérature, un peu mon bon plaisir de l'imagination et j'espère de la provocation, puisque tous ces personnages recherchent un temps perdu que le hasard leur ramène en pleine poire. L'homme qui se contemple dans son avilissement, le garçon perdu, un mioche sur les bras, et le type qui veut tuer sa femme et qui la rate. Alors c'est du lourd, comme disent ceux qui aiment la Mirabelle distillée en cachette et mangent du jambon sans faire attention. C'est du lourd, alors ça je crois que c'est dans le film Les Tontons Flingueurs. Alors la musique, ce sera du sautillant. Vous savez qu'à chaque épisode, un seul disque, et aujourd'hui, Cecil Taylor, un bijou de free jazz de 1960. La première histoire. Les chimères d'un misérable chauffard, malheureux et philosophe. Elle me dit, cela fait plus de 2 ans, tu sais, que l'on n'est plus ensemble. Ah, cela m'a fait de la peine. Mon frère et Jacqueline étaient mariés depuis 30 ans. Elle me raconte qu'ils ne se voyaient plus qu'une fois par an, à Noël, dans la maison de vacances des parents, au Hovald. Quand les enfants ont été grands, encore un peu moins souvent, parfois un dimanche après-midi. Fini les semaines de vacances ensemble. Et puis, les parents sont partis, la maison est restée presque à l'abandon. On pouvait toujours y passer, la cachette de la clé n'avait pas changé. On ne s'était pas vraiment perdu de vue, mais un jour les rêves et les souvenirs commencèrent à s'entrelacer et à perturber les chemins de sérénité factice qui soudaient les frères, les sœurs et les cousins. Je me dis que j'aimais bien ma belle-sœur, que je m'étais toujours mieux entendu avec elle qu'avec mon frère, et j'ai répondu « Tu restes dans la famille ?» Un petit silence. « Ah, si tu veux !» Tu es gentil. Et lui, comment il va? Ah, tu ne sais pas? Il est en prison. Quoi? Ah, on était séparés bien avant. Mais qu'a-t-il fait? Depuis quand? Le chalet du Hovald avait toujours été considéré comme un endroit super chic. C'est le grand-père, prof de philo, qui avait fait fortune avec des acteurs qu'il avait aménagés en style art déco. Il y a au-dessus de la cheminée une photo où on le voit avec Sarah Bernard en promenade au Kreuzweg. Bref, une famille respectable. Alors le frangin en prison, mais c'est une histoire de fric, de mœurs, quoi. Eh bien, il y a un mois, complètement bourré, il a tué une cycliste. Et en plus, la voiture n'était pas assurée. Alors c'est assez dingue, on croit connaître ses proches. J'apprends qu'il était vraiment devenu alcoolique, raison du divorce, qu'il avait quitté son boulot et qu'il était parti à la dérive. Tu sais, moi, les enfants, les copains, tous, on a essayé de l'aider. Mais il ne voulait pas. Comme s'il se complaisait dans une magnifique déchéance. Quand les flics l'ont cueilli, il s'était réassis au volant, sans bouger. L'ambulance était partie depuis un moment. Le vélo sous les roues, il attendait. Au commissariat, il a pleuré. Peut-être pas pour la jeune fille, mais comme un soulagement. Il était parfaitement lucide et cohérent. Il ne paraissait pas saoul. Il avait 2 grammes passés dans le sang en soufflant dans le ballon. Alors c'était en ville, tard le soir, et les flics d'Aubernay le connaissaient. Il avait été une personnalité, mon frère, adjoint au maire. Alors, il prenait des gants. Ils ont tout de suite prévenu le procureur. Et il leur a dit, pas la peine de me mettre en cellule de dégrisement, donnez-moi juste un verre d'eau et je vais au trou de la garde à vue. Un de ses amis avocats est venu au bout d'une demi-heure, c'est lui qui leur a dit qu'il avait déjà été arrêté 3 fois en état d'ivresse au volant et qu'il devait passer bientôt au tribunal et qu'il n'avait plus de permis. Ça fait beaucoup, ont dit les flics, beaucoup, vraiment beaucoup. Oui, beaucoup, aurait répété le frangin. Jusqu'ici, ce n'était que des bagnoles plantées et de la toile et de la tôle froissée. Mais là, une cycliste. Je peux demander comment elle va? Elle n'est pas morte? Quelques jours plus tard, on apprendra qu'elle était entre la vie et la mort, mais que si elle s'en sortait, elle serait pour toujours paraplégique. La belle-sœur a raconté un truc horrible que l'avocat aurait dit « Il vaut mieux pour toi qu'elle meure, tu feras 4 ans de prison et tu vendras ta maison pour payer, mais si elle s'en sort, tu feras un peu moins de prison, mais tu payeras des sommes énormes chaque mois, toute ta vie, on te prendra tout, à toi, à toute ta famille. » « Tu es un avocat dégueulasse », aurait répondu le frangin. « Laissez-moi juste une demi-journée. J'irai seul au Neuschwanstein faire la voie d'escalade. » Cette voie, elle s'appelle la Bovary. C'est une 7B. C'est la plus difficile. Et de là-haut, je sauterai. L'avocat, lourdeau, observait silencieux son client, l'assassin au volant. Mon frère aurait murmuré qu'il regrettait ne pas avoir foi dans l'immortalité, qu'il portait en lui le soleil noir de la mélancolie, et qu'on ne le croirait jamais s'il disait qu'il aimerait tant un miracle qui rende à la jeune fille ses jambes et son sourire. En rejoignant sa cellule, il ajouta que sa véritable peine consisterait forcément et férocement à écrire, à rédiger sa propre biographie.
Thank you.
C'était Cecil Taylor, un pianiste et poète américain visionnaire du free jazz, un morceau intitulé « Air » qui date de 1960. Deuxième histoire de notre épisode numéro 85 de « Vous l'avez bien connu » sur Radio Judaïka Strasbourg, l'histoire d'un bébé qui n'a rien demandé et qui va me faire un petit pipi sur la manche de ma chemise. Alors vous avez le droit de rigoler, mais ce n'est pas une histoire cochon. Vous imaginez bien que j'ai un bon, généreux, insolite et grand cœur. Je suis devenu papa en quelques secondes. C'était génial. Coïncidence pouponne à Vasselonne. Vous pouvez me le tenir 2 minutes, s'il vous plaît ? Alors, je m'étais arrêté parce que je voyais toutes les affaires au sol. Les poireaux, la boîte de tomates concassées et le paquet de couche-culottes. La poussette était à l'envers et en me tendant le bébé, il me dit « Merci, je ne peux quand même pas le poser sur le macadam ». En plus, il pleuvait sur le parking du carrefour rue de Romanswiller à Vasselonne. Alors, le jeune homme ramassa ses achats et remplit la poussette, mais là, plus de place pour le moutard qui braillait dans mes bras. J'ai dû avoir l'air compatissant du bon samaritain, car il me proposa de l'accompagner. J'habite à 300 mètres à côté de l'Étoile, en face de la mairie. Va pour la balade. Me voilà papa d'occasion, trottinant à côté d'un grand dadais qui renversa à nouveau son chargement, la roue avant de son bolide à mouflet étant voilée. « Ah, c'est la première fois que je suis seul avec Lucien, me dit-il. Ce sera une semaine sur deux. » Alors, comme Gainsbourg, je réplique, « Oui, c'est cela. On adore la javanaise, mais on vient de se séparer. Enfin, elle est partie. » Bon, Julien, vous savez, c'est le prénom de Gainsbourg. Lucien, c'est le prénom de Gainsbourg, voilà. Alors, devant la porte du petit immeuble, que faire ? Laisser le bébé sur les pavés pour monter les courses, ou laisser le bébé seul dans l'appart, puis descendre, récupérer la pitance des jours à venir. « Montez, je vous offre un verre, j'ai du whisky japonais. » Waouh, à 10h du matin, je me suis dit « Alcoolo, voilà pourquoi elle s'est barrée. » Eh bien non, la bouteille était même pas entamée. Et finalement, « Je préfère un café. » Le bruit de la machine à capsule calme le Lucien posé sur son couffin et après avoir chaudement humidifié le bas de ma manche d'un gentil petit pipi, son paternel me tend la tasse et une poigne enjouée. « Moi, c'est Marcel, je suis étudiant en lettres modernes. » « Et moi, c'est Ambroise, je passais par là par hasard, » répliquai-je, ajoutant « Enchanté ». Sans faire d'allusion à l'illustre temps perdu devant M. Marcel. Alors, le hasard est certainement farceur, puisqu'on entend soudain un discret toc, 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 et une guillerette petite jeune fille apparaît. Elle s'excuse de venir à l'improviste. Ah, je devine qu'elle est au ciel avec des diamants, puisqu'elle me dit « Je suis Lucie ». Et elle ne semble pas étonnée, ni par mon air de babysitter confirmé, ni par la bouteille nippone ambrée sur la table allongée. La maman ! Alors, il faut savoir s'arrêter quand tout va bien. Oui, ce sera bientôt la fin de cet intermède matinal dans l'intimité d'un couple naufragé. Je vais donc conclure par « Bon, je vous laisse !» et filer à l'Alsacienne. Mais Marcel, désemparé, invente « c'est Ambroise, c'est lui qui me fait passer ma thèse sur Flaubert. » Alors, ce qui est un pieux mensonge, forçant ma complicité pour innocenter la fortune de notre rencontre et justifier ainsi ma présence saugrenue dans le capharnaüm de l'appartement. Et c'est à ce moment-là que Lucien tend les bras vers moi et lance joliment « Papa !» « Cecil Taylor, Port of Call, enregistré en 1960 à New York. Troisième histoire pour conclure notre 85e épisode, on va un peu jouer sur les assonances puisqu'il est question de l'arme, d'une lame et de l'âme d'un assassin. Les larmes de l'assassin de Klingenthal. Alors, l'arme du crime, les larmes du crime et l'âme du crime qu'on évoque ici avec la victime. Un crime par l'âme à Klingenthal, à la manufacture qui avait été créée par Louis XV, le mari de la princesse polonaise de Wissembourg, Maria Leszczynska, pour y fabriquer des lames d'épée, le nom entier étant Klingenschmiede im Enntal, les forges de lames de la vallée de l'Aisne. Alors, l'assassin sema la confusion, chaque détail pouvant lui être fatal s'il se faisait prendre avant qu'on ne le pende. Le détail qui le perdit, ce fut un bruit très spécifique. Alors, Klingen signifie teinté, hein, Klingenthal. Klingen, ça veut dire teinté. Et la victime, qui n'était pas morte, avait reconnu la sonorité très précise de cette lame sortant de son fourreau. Et le presque assassin fut arrêté alors qu'il s'apprêtait à demander l'asile au Mont-Saint-Odile. Sa femme, il avait imaginé la tuer. Et pourtant, il l'aimait. Et le juge lui dira « Vous me ferez 20 ans ». Et l'Antoine, alors tout le monde le connaissait, hein, à Börsch, l'Antoine répondit « Bien entendu, quand on aime, on a toujours 20 ans ». Il avait volé ce sabre à longue lame, l'arme du crime, en 1996, dans le grenier de l'école, pendant les travaux de transformation en musée. « Préméditation !» hurla le procureur. « Impossible !» rétorqua la défense. À l'époque, il ne la connaissait pas, la Simone. Il l'avait rencontrée un soir de Noël. Elle avait l'air d'une sorcière et il prétendit être le diable. Et alors, elle rit en lui offrant un sachet de bredele dont la recette était un secret maléfique. L'avocat tenta la vis de forme. Il y avait deux Klingenthal, l'un en Saxe, à la frontière. La frontière tchèque, où l'on y fabrique toujours des violons, et celui-là, ici en Alsace, célèbre aussi pour ses stages photos dans le centre de vacances. Et il y avait aussi deux Wissembourg, en Bavière, et l'autre en Alsace, sur la Lauter. J'ai assisté au procès. Les experts firent des démonstrations. Alors tendez l'oreille. Oui, chaque lame sortant de son fourreau avait un bruit particulier et qui donc fut identifié par la victime. L'assassin confondu reconnut son crime et profita d'avoir la parole pour en expliquer les circonstances. L'Antoine raconta que son ancêtre, le fils du maître d'armes de Klingenthal, avait été médecin à la bataille de Waterloo. Et quand il revint, il choisit de vivre seul dans une cabane sur les rochers, au milieu de ses livres et loin des sabres. On l'appelait le Waldbruder et on disait qu'il avait fait vœu de ne plus jamais toucher une arme. Trop de sang dans les batailles. En bas, la manufacture employait cette année-là, en 1815, de majuscules défaites, 679 ouvriers qui avaient fabriqué en vain 71 000 sabres d'une mortelle qualité pour la cavalerie de Napoléon. Et si les lames avaient été livrées à temps, Waterloo aurait été une victoire. Comme souvent aux assises, la chose se solda de propos amphigouriques. On comprend donc qu'aujourd'hui, encore, dans l'esprit populaire, Klingenthal, avec sa fabrique de redoutables couteaux et son assassin amoureux, Klingenthal reste le village de la mort. C'était E.B. de Cécile Taylor. Voilà, fin de l'épisode numéro 85 de « Vous l'avez bien connu » sur Radio Judaïca Strasbourg. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec Joe Dassin qui va acheter des petits pains au chocolat à la boulangère d'Aubernay. On a rendez-vous avec une princesse qui perd son cœur, mais pas pour tout le monde, sous le pont de l'Alma à Paris. Et on a rendez-vous avec une vieille dame qui aime tellement son facteur qu'elle s'écrit des lettres tous les jours pour être certain qu'il va passer. Vous l'avez bien connu le mardi à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin.